Exode chapitre 16, versets 2 à 15. Exode chapitre 16, versets 2 à 15. Au nom de Jésus. Là, dans le désert, les Israélites se mirent à critiquer Moïse et Aaron. Ils disaient: si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse: du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Le sixième jour, quand vous préparerez ce que vous aurez ramassé, vous en trouverez le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, le Seigneur vous donnera de la viande à manger, car il vous a entendu vous plaindre de lui. Vous saurez alors que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, quand il vous donnera du pain en suffisance, vous verrez sa gloire. Quant à nous, nous ne sommes même pas dignes que vous nous critiquiez. Et si vous le faites, en réalité, c'est le Seigneur que vous attaquez. Puis Moïse ordonna à Aaron: dis à tout le peuple d'Israël de venir se présenter devant le Seigneur, car il les a entendus se plaindre de lui. Pendant qu'Aaron parlait à l'ensemble des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et soudain, la gloire du Seigneur apparut dans la fumée. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai entendu les plaintes des Israélites. Dites-leur donc ceci de ma part: ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était, et ils se demandèrent les uns aux autres: qu'est-ce que c'est ? Moïse leur répondit: c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Amen. L'histoire de la manne. Je vais vous poser une question. Qui parmi vous n'a jamais entendu parler de cette histoire? Tout le monde a entendu, je crois, depuis notre enfance. Et peu de gens ne le connaissent pas. Et même, je vais dire, les plus farouches des athées qui ne croient pas en Dieu le connaissent trop bien que nous-mêmes. Parce qu'ils aiment tellement utiliser cette histoire pour enfoncer encore le clou. Et pour nous dire: vous croyez encore en ce genre d'histoire, vous les chrétiens, une histoire à dormir debout, comme on dit. Mais quelque part, ils ont un peu raison. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi? Ils ont un peu raison, je dis bien un peu. Car il y avait tellement eu de légendes qui s'est greffée autour de cette histoire. Je dis bien des légendes populaires et même chrétiennes. On va dire une croyance populaire chrétienne qui a remplacé ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Disons que Dieu avait fait tomber du ciel du pain qui était appelé la manne. Mais si vous avez bien suivi la lecture, Dieu n'a pas fait tomber du pain, mais de la manne. Comment est-elle cette manne? Versets 13 à 15, quelque chose de menu, de granuleux. Et dans le livre des Nombres, il donne une description très précise. Et je vais le lire comme ça. Nous ne continuerons plus cette légende populaire chrétienne qui n'est pas du tout biblique. Livre des Nombres, chapitre 11, versets 7 à 9. Livre des Nombres, chapitre 11, versets 7 à 9. Au nom de Jésus. La manne avait la forme des graines de coriandre et était blanchâtre comme la résine de bdellium. Et pendant la nuit, elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée. Le matin, le peuple se dispersait pour en ramasser. On l'écrasait entre deux meules, on la pilait dans un mortier, puis on la cuisait dans une marmite où on en faisait des galettes, et la manne avait le goût des gâteaux à l'huile. Donc, elle ressemblait aux graines de coriandre qu'il fallait broyer au moulin. Il fallait le piler dans un mortier. Et on faisait cuire dans une marmite. Et à partir de là, on a eu les galettes, les biscuits. On va dire les biscuits du ciel. Elles avaient le goût d'un biscuit à l'huile. Alors, qu'est-ce qui rend spécial cette manne? D'ailleurs, le mot manne signifie qu'est-ce que c'est? Cette interrogation est plus que légitime, parce que comment pouvait-on cueillir ou ramasser ce genre de granuleux dans le désert où il n'y avait aucune plante? Là déjà, c'est quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire, c'était une matière qui n'est pas le fruit d'un dur labeur des Israélites. Il fallait juste les ramasser. Contrairement aux païens, qui fallait travailler dur pour avoir leur pain quotidien. Mais les Israélites, ils ont eu ça de la main de Dieu. Et si vous regardez dans le texte, le contraste, l'auteur met la différence. Contrairement au pain et aux viandes qu'ils ont mangées en Égypte, parce qu'ils ont loué cela, mais là-bas on a bien mangé autour d'un marmite, ici on souffre. Mais ils avaient oublié, là-bas, il fallait travailler dur, comme un dingue, pour avoir son pain et sa viande. Or, ce qui est étonnant dans ce texte, ce peuple avait loué la qualité du pain et de la viande d'Égypte en oubliant qu'ils avaient les mains et les pieds liés par des chaînes de l'esclavage. Vous voyez, parfois on oublie certaines choses. Oui, ils ont bien mangé, ça il faut le dire. Ils ont mangé à satiété, comme dit l'Écriture, mais ils étaient esclaves. Ce détail, on l'oublie. L'erreur qu'il faut corriger alors ici dans le texte, dans notre façon de penser, c'est que Dieu n'a pas donné de gâteau, mais de la manne. Il fallait encore travailler, la broyer, la piler, et ensuite faire une pâte de pain ou de biscuit avec. En d'autres termes, travailler. On peut voir à travers ce récit une mise en lumière extraordinaire entre deux types de travail. Le premier, comme ce qui est annoncé dans le texte, un travail qui te rend esclave. Oui, ils ont travaillé en Égypte, mais ils étaient esclaves. Bien que ce peuple a mangé du pain et de la bonne viande égyptienne à satiété, comme on dit, ils étaient esclaves. Voilà le premier type de travail. Le deuxième type de travail, c'est un travail, Dieu n'est pas un Dieu des fainéants, non, il fallait broyer, piler, faire la cuisine, mais ce type de travail est différent du premier qu'on a ici. C'est le travail qui tombe du ciel avec l'image de la manne, un travail qui est une bénédiction et non un esclavagisme. Qui aurait pu imaginer que ce texte qui raconte l'histoire de la traversée du désert du peuple d'Israël, est encore une signification réelle pour nous aujourd'hui en 2018, voire même une mise à jour extraordinaire. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas le Dieu des fainéants, des gens qui ne font rien, mais qui ne font que prier et attendre le retour du Seigneur. C'était le problème de la communauté thessalonique. Oui, le Christ va revenir, alors ils ont décidé de ne plus travailler. Non, ce n'est pas ça. Il nous renvoie au travail, comme il l'a déjà fait depuis le début de la création. Rappelez-vous, Dieu nous a mis dans le jardin pour travailler, gérer la terre qu'il nous a donnée. Mais maintenant, le travail que tu fais, est-ce que ce travail te rend esclave? Ça, c'est la question. Est-ce que ton travail devient la source de ta vie et non plus le Seigneur? Alors là, tu oublies d'où vient ce travail que tu as. Là, c'est le piège du diable. Un glissement, comme si ta vie dépendait de ce travail, mais ne dépendait plus de Dieu qui a donné ce travail pour toi. Et faites attention. On devient des idolâtres. Et regardez bien l'évolution du texte, qui tout doucement attire l'attention du lecteur qu'au sixième jour, Dieu accorde le double de ce dont il avait besoin pour pouvoir se reposer le septième jour, le jour du Shabbat. Le texte parle tout seul. Celui qui est esclave de son travail, c'est celui qui n'a pas le temps pour son Dieu, parce qu'il croit que c'est lui seul qui est le fournisseur de tout ce dont il a besoin. Nous vivons dans une société où on nous fait croire travailler plus pour gagner plus. Certes, il y a des gens qui sont fous du travail. Ils gagnent bien leur vie, mais ils ne voient pas que leurs pieds et leurs mains sont liés et enchaînés. Après avoir entendu tout cela, nous pourrions comprendre maintenant le sens de la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque matin que tu te lèves, si tu es conscient que le travail que tu as est une bénédiction, alors le rapport que tu auras avec ton travail et avec tes supérieurs changeront. Ce ne sera plus un poids ni un fardeau. Dans Colossiens chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit « Esclave », c'était le terme de l'époque, « obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Mais quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des humains. » C'est là la différence d'un chrétien avec un gars qui est fou du boulot. On le fait non pour attirer l'attention de nos supérieurs, pour avoir une promotion, pour être bien vu, mais on le fait pour que notre travail devienne une bénédiction pour la société. Le travail change de statut à ce moment-là. Il devient un sacerdoce. Puisqu'on le fait pour Dieu, même si c'est notre gagne-pain. Et c'est là qui doit nous rendre différents, chers frères et sœurs en Christ, autour de nous, dans le milieu où nous évoluons. Nous ne faisons pas notre travail par peur de représailles, ni dans l'espoir d'être bien vus. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que ce travail que nous avons est une manne qui vient du ciel. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, quand il était vendu esclave. Là où il était, il attirait l'attention de tout le monde, pourtant il était esclave. Il était différent parmi tous, même dans la prison. Tout le monde l'admirait, mais il n'est pas comme tout le monde, il réagit différemment. Il faisait tellement bien ce qu'on lui a demandé, même s'il savait qu'il n'était qu'esclave. D'où la bénédiction de Dieu est venue par là. Et même, il était un peu victime de cela, Même la femme de Putiphar l'a remarqué. Genèse chapitre 39, versets 2 à 3. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. C'est cela qui a suscité l'attirance de la femme de Putiphar. Et n'oublions pas que Joseph était esclave, malgré les avantages qu'il avait. Mais lui, il ne tenait pas compte de cela. De son statut d'esclave, il a fait son travail pour l'Éternel. Et la bénédiction de Dieu se manifestait. C'est vrai que maintenant, tous les travaux sont menacés, sans exception avec la conjoncture mondiale qui change. L'inquiétude plane sur le monde entier. Personne n'est épargné. Mais au lieu de se soucier du lendemain, ta présence dans ce lieu de travail où tu es devrait se ressentir, car tu es une bénédiction pour ton travail et non un poids. J'ai une question un peu bizarre à vous poser. Toi qui es chrétien, as-tu déjà prié pour ton boss ? Ah mais il n'est pas bien, il m'embête, je n'ai pas le temps de prier pour lui, je vais prier pour ma famille. C'est une question. As-tu déjà prié pour ton patron ? C'est dur, hein ? As-tu déjà prié pour ton travail ? As-tu déjà prié pour ton lieu de travail ? Souvent, tu pries, Seigneur, pourvu que le travail continue. Mais le travail ne continuera pas s'il n'y a pas les gens qui travaillent dedans. Ou est-ce que quand tu travailles, tu as hâte de rentrer chez toi ? Parce que c'est comme si ce lieu était un enfer. N'attends pas qu'autour de toi change, mais c'est toi le Seigneur qui veut utiliser pour changer cet enfer. Oui, cela peut paraître bousculant, ce que je vous dis ici, oui, je l'avoue. Mais le Seigneur a fait la même chose à son peuple lorsqu'il était en captivité en Babylone. Dans le réflexe de ce peuple, il faut se rebeller contre Babylone, contre Nebuchadnezzar, pour rentrer à Jérusalem. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé. Intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Jérémie chapitre 29, 7. Voilà le plan de Dieu. Vous imaginez un peu Israël en entendant cela. Quoi ? Il faut prier pour Nebuchadnezzar. Il faut prier pour Babylone. Mais ils nous font du mal. Oui. Tant que ce pays soit en paix, toi aussi, tu seras en paix. Voilà le plan de Dieu, chers amis. Ce n'est pas s'agenouiller devant Dieu, jeûner pendant 48 heures pour que Dieu nous envoie un salut. Non, c'est là où tu es qui devient une bénédiction. Alors, gardez la foi dans le milieu où vous êtes, qui n'est pas facile, et que Dieu vous utiliserait. Et pour terminer, j'ai raconté une histoire à Marcel hier, quand j'ai rendu visite chez lui. Une histoire vraie, un monsieur qui n'avait pas fait des études et il n'était que chauffeur dans une association, dans une ONG. Et alors, ce monsieur, un bon chrétien, le travail commence à 8 heures et lui, chaque jour, il arrive à 7h30 avant tout le monde au bureau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à nettoyer la voiture. Il a tout fait, et c'est quelqu'un qui fait de la mécanique aussi. Et à chaque fois, son boss remarquait que la voiture était toujours nickel. Jamais de problème mécanique. Il sentait déjà qu'il y avait un petit souci, et il réparait cela au garage. À chaque fois qu'il revenait en mission, il changeait la housse de voiture, les lavait à la maison même, par ses propres moyens. Et tout le temps, la voiture était impeccable. Mais le chef a remarqué, mais il n'a rien dit. Un jour, l'association est terminée, il n'y a plus de financement. Vous savez, en Afrique, c'est des ONG qui reçoivent des financements de l'Europe. Tout le monde était licencié dehors, sauf le chauffeur. Pourquoi? Parce que lui a dit, j'ai vu comment vous avez travaillé. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu. Alors lui, il a proposé à ce chauffeur de donner un autre boulot dans un autre organisme plus élevé, le BIT, Bureau International du Travail. Et il recevait le salaire des gens ici en Europe, au pays. Et maintenant, ce gars, il vit comme un roi. Il n'était qu'un petit chauffeur, mais il le faisait pour Dieu. Et voilà la bénédiction. Amen.